tout le monde, bonsoir. Alors, je ne m'attendais pas à devoir parler ce soir. En fait, je remplace Nelly Niwa qui a dû s'absenter. Du coup, je vais vous parler d'un petit projet qu'on a monté, qui a eu lieu, qui a été lancé le 10 et le 11 mars dernier, qui est justement le projet de l'ORIA, ce observatoire sur les récits et imaginaires de l'Anthropocène. En fait, je vais vous parler un petit peu de l'origine de cet observatoire, de ce qu'on a découvert pendant ces journées, et puis de là où ça va, en fait, des lignes directrices qu'on essaie un petit peu de tracer. Donc, le but de cette journée, il était triple. D'abord, c'était d'essayer de créer une communauté de chercheurs intéressés par les enjeux de transition écologique et de durabilité, en partant du prisme du récit. Qu'est-ce qu'un récit? Qu'est-ce que peut un récit? Qu'est-ce que peut faire un récit pour chacune des disciplines auxquelles appartenaient ces différents chercheurs et chercheuses? L'idée étant aussi peut-être de créer ou d'aménager des corpus dans chacune des disciplines. On avait des juristes, on avait des sociologues, on avait évidemment des littéraires qui étaient là. Donc, quels sont aujourd'hui les textes ou les imaginaires qui sont prégnants dans ces questions écologiques et de transition qui nous animent, et d'essayer en fait de proposer une sorte de glossaire, de mots ou de concepts phares vers lesquels se diriger aujourd'hui pour sensibiliser et pour amorcer cette transition écologique au mieux, de manière résiliente et de manière égalitaire surtout. Ça, c'était le but en fait de ce premier moment en fait des journées du 10 et 11 mars, qui est donc à rassembler après une vingtaine de chercheurs. On a fait plusieurs tables, on est parti justement de ces différents mots, des trois mots: imaginaire, Anthropocène et récit, qui composent justement le titre de l'observatoire. Et il est ressorti de ces différentes discussions d'abord un grand élan de déconstruction, une grande volonté de déconstruire, de pas arriver simplement à des définitions arrêtées, mais de déconstruire le plus possible ces différents concepts. Et on a aussi abouti à des pôles d'opposition comme ça. Le premier pôle d'opposition, c'était comment définir ce qui est humain de ce qui est non humain, comment sortir, si on veut, à partir de ce mot anthropocène, du regard anthropocentré, se décentrer, se déconstruire à partir de là. Le deuxième pôle d'opposition, c'était la question du territoire singulier versus monde commun. Quand est-ce que l'on fait territoire? Quand est-ce qu'un récit fait territoire? Et comment faire en sorte que ce récit s'élargisse à l'idée d'un monde commun, entre le commun et le singulier? Et puis, le dernier élément, qui était, je pense, l'un des plus exigeants, c'était d'essayer de réinventer un langage. Quel nouveau langage est-ce qu'il faut trouver pour parler de ces problèmes aujourd'hui qui sont particulièrement incommensurables et particulièrement difficiles à apprivoiser et à imaginer? Ça, c'était pour la première partie du workshop. Le deuxième jour, on a eu, on a un peu mis en œuvre ces différentes questions avec un atelier d'écriture qui a aussi rencontré un grand succès et qui s'appelait Écrire des lendemains qui chantent. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont arrivés, c'était donné par une autrice contemporaine et qui est aussi chercheuse ici à l'Université de Lausanne. Avec cette question, la question qui se posait, c'était comment est-ce que le récit permet aussi peut-être non seulement de donner un sens à notre vie singulière et à notre vie collective face aux enjeux vers lesquels on se dirige ou qui sont même déjà là, et comment faire en sorte justement que ce récit puisse reconstruire des conduites, peut-être reconstruire des valeurs qui nous permettraient justement de transformer ou d'amorcer, d'orienter nos comportements différemment dans le but de faciliter cette transition écologique. Ça, c'était pour l'aspect atelier d'écriture. Et puis, il y a eu un troisième moment qui était un débat particulièrement intéressant, qui était une table ronde. On est parti d'un cas d'étude, qui était le cas d'étude de la ZAD du Mormon. Une table ronde qui s'appelait « Habiter autrement ». Récit et imaginaire de la ZAD du Mormon. Voilà, et je parle, c'est tout à fait bien, je parle tout à fait bien coordonné, je parle et la diapositive arrive. Donc on avait deux personnes qui sont au fond, qui sont masquées, qui étaient deux zadistes de la colline, qui sont venues nous faire part de leur témoignage. On a co-dirigé cette table ronde avec Célia Dupietro, qui fait partie de l'ORIA aussi, et qui est assistante doctorante en sociologie, à l'Institut de sociologie et de sciences sociales, ici à l'UNIL, pour essayer de dégager justement les enjeux qui étaient justement ceux qui ont été incarnés sur la ZAD. Parce que je pense que l'un des enjeux fondamentaux de l'ORIA, c'est de montrer comment est-ce qu'un récit peut être incarné, comment incarner un récit, comment qui plus est incarner un récit alternatif, et comment faire en sorte que cette alternative ensuite prenne corps, se diffuse et puisse sensibiliser d'autres chercheurs, d'autres personnes, autant du côté de la cité que du côté du monde spécialisé, des experts, si on peut employer ce terme-là. Et maintenant, je vais demander à mon maître du temps, Thomas, combien de temps il me reste? Plus qu'une minute? Ok, parfait. Du coup, il y a peut-être trois pistes qui maintenant s'offrent aux chercheurs en sciences humaines et en littérature. La première piste, en restant sur cette idée de créer des corpus de textes, c'est comment aujourd'hui lire des récits du passé au présent, c'est-à-dire comment isoler des corpus qui parleraient déjà dans les années 70, dans les années 80 par exemple, des enjeux que l'on rencontre aujourd'hui, et créer ce lien que Walter Benjamin appelait ce lien dialectique hein, entre le passé et le présent, et d'essayer, pourquoi pas, d'où l'idée de prospective, d'anticiper sur des enjeux qui vont se poser à partir de ces récits. Premier type de piste. Deuxième type de piste assez large, qui est l'idée de voir comment est-ce que les formes esthétiques aujourd'hui, y compris les formes de récits, peuvent s'inspirer d'une forme de biomimétisme. Comment est-ce que comment s'inspirer peut-être du milieu, du rapport de certains autres vivants au milieu, pour créer de nouvelles formes artistiques, de nouvelles formes esthétiques au sens large, qui nous permettent de renforcer cette sensibilisation et cette transformation de nos conduites collectives et individuelles. Voilà. Et le troisième aspect, c'est essayer de créer un autre glossaire, un autre langage, en fonctionnant, pourquoi pas, sur le principe de l'isotopie, qui est un principe proposé par Michel Foucault, qui est l'idée, en fait, de prendre un terme et de voir dans quelle mesure est-ce que ce terme ou cette notion s'applique dans d'autres domaines. Prenons l'exemple de style. Le style, c'est une notion qui apparaît en littérature, qui apparaît aussi en histoire de l'art, qui apparaît, pourquoi pas, en anthropologie et dans d'autres sciences humaines ou sciences sociales. Pourquoi pas l'idée de relief aussi. Relief, c'est une notion qui apparaît en architecture, qui peut peut-être aussi apparaître dans d'autres perspectives en sciences humaines ou en sciences dures. Ou l'idée de storytelling, voilà, de narrative, ça peut être intéressant. Voilà un petit peu les trois pistes sur lesquelles on a abouti et qu'on continue encore aujourd'hui, bien sûr, à travailler. Merci beaucoup. Et merci à Thomas pour le temps.